أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous retrouvons pour une émission autour du message de l'islam en essayant ensemble de comprendre notre religion. Nous avons parlé d'un certain nombre de thèmes et puis il y a une référence, un des éléments qui est essentiel dans notre vie en tant que musulmane et en tant que musulman. Nous ne cessons de le rappeler, nous le rappelons d'ailleurs aux gens quand ils nous interpellent, mais à nous-mêmes, nous savons que la première source de l'islam, c'est le Coran et le Karim, c'est-à-dire c'est le Coran, la récitation, le dernier message révélé. Et puis, ce que nous disons également, c'est que c'est la sunna. Et la sunna, c'est les hadiths, c'est l'ensemble de ce que le prophète a fait, dit ou approuvé durant sa vie. Ceci, nous le disons, nous le répétons et nous savons de quoi il retourne, c'est-à-dire que pour comprendre le Coran, nous avons à parfois faire référence à ce que le prophète a dit ou a fait. Par exemple, quand il s'agit de la prière, à ceux qui, par exemple, parfois nous disent « Non, nous laissons les ahadiths, nous ne nous occupons pas des ahadiths, nous nous référons uniquement au Coran », à cela, il faut leur dire avec simplicité « Mais comment voulez-vous vous en tenir uniquement au Coran pour savoir comment prier ?» Parce que, finalement, la façon que l'on a de prier, elle est liée à la façon dont on sait que le prophète a prié, et lui-même d'ailleurs le dit, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc vous devez prier selon comment vous m'avez vu prier, comment l'a-t-on vu prier. Eh bien, on va retrouver ceci dans la sunna du prophète et qui est en l'occurrence codifiée ou sur laquelle il y a eu un travail tout à fait singulier, particulier, scientifique, de recherche de l'authenticité. D'ailleurs, on n'a pas encore terminé. Et puis avec les moyens modernes maintenant, tout ce qui concerne le fait de la mise en place de vérifications qui peuvent s'appuyer sur l'ordinateur, sur des puissances technologiques en même temps qui nous permettent aujourd'hui de faire des recoupements qui étaient difficiles parfois à faire pour les savants de l'époque, et bien aujourd'hui nous continuons ce travail de vérification. Donc nous avons une source qui est une source nécessaire. Le prophète, même pendant la période du pèlerinage, dit Khudhu minni manasikakum, c'est-à-dire prenez de moi les étapes de l'application de ce qui est bien pendant le pèlerinage. Donc en l'occurrence, le prophète nous renvoie à lui-même, c'est ce qu'il a laissé, ce qu'il dira d'ailleurs dans le sermon d'adieu, celui qui est fi hajj al-wada', c'est-à-dire au moment où il quitte, où il sait qu'il va quitter la communauté, eh bien, il leur dit, j'ai laissé parmi vous ces deux choses, d'abord le Coran et puis ma façon de vivre, ma tradition sunnati, c'est-à-dire dans la dimension de sunna, c'est une sorte de tradition, de rapport à lui, d'éléments qu'il nous a donnés au travers de sa vie. Ça, c'est une chose qu'il faut encore rappeler, et il faut le rappeler aux musulmanes et aux musulmans, il faut le rappeler aussi à notre entourage, et il faut rappeler ceci à un certain nombre de femmes et d'hommes qui, au nom de la largesse du Coran, voudrait éliminer les détails de la sunna du prophète en disant non, ça c'est pas important, il y a trop de restrictions ici. Alors, le texte du Coran se suffit à lui-même quant à tous les enseignements fondamentaux, et nous avons besoin du prophète pour les éléments d'application, et c'est ce que nous dit d'ailleurs le Coran. Quand on lit le Coran et qu'il nous est dit que c'est le meilleur des modèles, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, il vous est dit c'est le meilleur des modèles, et certains voudraient enlever ce qui est dit du Coran. Donc ils prennent du Coran une part, et on oublie la part qui dit dans le Coran qu'il faut s'appuyer sur ce que le prophète a fait. Une contradiction dans les termes qui cherche là à éviter parfois un certain nombre de règles qui sont très très clairement et mentionnées dans le Coran et appliquées par le prophète. Ça, c'est un élément sur lequel il faut que nous soyons clairs au départ pour ne pas faire en sorte de finir dans une sorte de spiritualité romantique comme ceci, ce que nous pouvons voir parfois dans la mystique contemporaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le soufisme. Mais il y a soufisme et soufisme, il y a une longue tradition de gens, de mystiques qui ont suivi les règles, suivi ce que le prophète, qui étaient des mystiques au sens où ils suivaient le prophète dans sa façon de prier la nuit, dans sa façon de rajouter à l'expérience spirituelle. Non, passons par une espèce de nouvelle façon d'être un spirituel quand on veut éviter toutes les règles religieuses. Et on finit par dire, ah bien, il y a la spiritualité, la religion. Non, il n'y a pas de religion sans spiritualité. Et selon ce que nous pensons, il n'y a pas d'élévation spirituelle sans règles. Et c'est ce à quoi le prophète A.S. était venu. Ça, c'est un premier élément sur lequel il faut que nous nous arrêtions. Et nous avons également ce que disait ou comment commentaient les Mufassirun quand ils lisent le Coran et qu'il nous est dit « Kama arsalna fikum rasoulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum al-kitaba wal hikma » Le dernier morceau de ce verset, il nous est dit « Comme nous avons envoyé parmi vous et tiré de vous un envoyé qui va vous lire le Coran, qui va vous réciter le Coran, qui va vous purifier et qui va vous enseigner al-kitab wal hikma » Là, les savants nous disent « al-hikma » ce qui est littéralement, au sens premier du terme, ça veut dire la sagesse. Et ce qu'ils disent, la sagesse, c'est la sunna du prophète, alayhi salam. Alors, c'est la sagesse d'un point de vue général. Certains savants sont allés plus loin que ça en disant c'est la sagesse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est le bon comportement. C'est la capacité. Qui est le sage? C'est celui ou celle qui réussit, à la lumière de ces principes, de mener une vie qui est une vie conciliée, apaisée, qui vit le principe, pas dans sa perfection, parce que nul n'est parfait, mais qui est en quête de cette réconciliation entre l'agir et le principe qui l'illumine. Donc, une maîtrise. D'ailleurs, dans toutes les traditions, même celles qui ont précédé l'islam, dans la tradition chrétienne, la tradition juive, jusqu'aux philosophes grecs, jusqu'à quand on lit Socrate, quand on lit la tradition grecque fondamentale, quand on lit des philosophes comme Kant, quand on lit tout, qu'est-ce qui est l'élément qui va déterminer la sagesse, c'est le hikma, c'est celui qui maîtrise et qui en fait ne laisse sortir de lui-même en parole, dans le regard, dans même l'écoute et dans le comportement, que ce qu'il sait être digne de celui qu'il veut être ou qu'elle veut être. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est ce qu'on a aussi appelé la tempérance, la maîtrise. Ce qui nous est dit dans le Coran, « كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا » Nous vous avons créé, fait de vous la communauté du juste milieu. C'est quoi le juste milieu? Le juste milieu, c'est cette sagesse-là. C'est celle qui voit les deux extrêmes et qui reste dans la voie du juste milieu, qui maîtrise ce qu'il faut maîtriser et qui donne liberté à ce qui doit être la liberté. D'où va venir cet enseignement-là? C'est l'enseignement-là, la sagesse, qui peut être la sunna du prophète, salam, selon certains savants, comme je viens de le dire, eh bien, c'est le prophète, salam, qui va nous enseigner cette sagesse-là. Comment appliquer en tant qu'humain, parce que ce qu'il nous est dit et ce qu'il lui dit lui-même, il dit n'en rajoutez pas, n'essayez pas d'être plus que des hommes puisque vous n'êtes que des hommes, et que la sagesse c'est toujours de considérer que vous êtes des hommes. Un homme sage c'est avant tout qu'il est homme, et n'essaye pas de faire l'ange, comme disait le philosophe qui veut faire l'homme n'est ni ange ni bête, et celui qui veut faire l'ange, eh bien il fera la bête. Non, l'islam nous dit, vous êtes homme, restez homme. Et tout ce que Dieu a fait de vous, tout ce qu'il a mis en vous, c'est d'être des hommes, donc maîtrisez l'humain en vous, et n'essayez pas d'être plus que ceci. Et ça, ça va être un élément qui va être déterminant dans notre façon de comprendre maintenant. Pas simplement les hadiths, parce que ce que nous on sait, les hadiths, les traditions prophétiques, elles disent, comme je viens de le dire, ce que le prophète sallam a dit, fait ou approuvé. Mais maintenant, on en vient à sa vie, et ça, c'est autre chose. C'est ce qui va s'appeler Sira al-Nabawiyya, c'est-à-dire la vie du prophète, sa biographie, comment il est, où il est né, comment il a vécu son enfance, comment à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala le retire de la croyance de ses contemporains, comment il lui fait chercher la croyance ultime du divin, comment il va l'éduquer à partir de 40 ans à comprendre l'essence de la religion, à comprendre le cheminement. Et là, on a toute une évolution qui va se faire. Et ça, c'est extrêmement important. Pour trois raisons d'abord. La première des raisons pour laquelle ceci est important, c'est qu'on voit ici qu'il y a le divin et l'humain et que l'un est distinct de l'autre. Et ça, quand il nous est dit dans le Coran, rien n'est égal au divin, rien ne lui ressemble et il est celui qui entend et celui qui voit tout. Ça, c'est un élément qui dit, il est au-dessus. Il est au-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce que rappellera Abu Bakr al-Siddiq, alayhi salam, à la fin, quand il va mourir, en disant, attention, il ne faut pas l'adorer lui, il faut adorer Dieu. Allahu hayyun la yamut. Ceux qui étaient en train d'adorer le prophète, salam, ils se trompent, c'est que Dieu. Donc, le premier élément, le premier enseignement ici de cette relation-là, elle est cet enseignement de cette distinction entre le divin et l'humain. Premier élément qui est important ici. Le deuxième élément qui est important dans cette révélation, c'est la fonction qui va être une fonction des étapes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une éducation à la transformation de soi. L'éducation spirituelle, la transformation, la conversion spirituelle, elle se fait à un moment donné où on découvre la vérité. On découvre la vérité avec son cœur et on change son être avec le temps. Ça, c'est un élément essentiel de l'expérience spirituelle. Et c'est ce que va nous dire ce rapport avec le prophète, as-salam, où on va le voir changer dans le temps, avancer, évoluer dans le temps. Et puis, à un moment donné, même avoir douté de soi, puis ensuite avoir confiance en soi, parce qu'il a confiance en Dieu, et Dieu le met à des moments donnés dans des situations où il dit, Zulzilou, il est dit dans le Coran, à des moments donnés, ils vont trembler, la terre va trembler, c'est-à-dire la terre spirituelle, le cœur spirituel va trembler quant à la peur. Et là, il va y avoir des expériences extrêmement importantes. Et le troisième enseignement qui est important dans tout ceci, c'est que rien n'arrive dans votre vie qui n'est un sens à la lumière du divin. Et ça, c'est quand on lit la vie du prophète, on dit à un moment donné, il y a eu des défaites. Ghazwat Uhud, il y a eu une défaite. Et au moment de la défaite, on pourrait se dire, en la lisant, c'est une défaite. Eh bien non, la défaite est une victoire. Mais attention, elle n'est pas une défaite humaine. Elle est vraiment une défaite humaine. Elle n'est pas une victoire humaine. Elle est une victoire dans... Elle est un obstacle. Vous savez, comme ce qu'il y a dans les rites, ce qu'on appelle les rites initiatiques. À des moments donnés, vous passez par des étapes et vous ne savez pas au moment où vous les vivez quel est le sens que ça va avoir. Souvent, c'est votre futur qui vous enseigne les enseignements de la blessure présente. Eh bien, la défaite dans l'histoire de la révélation, dans l'histoire de ce que le prophète salam, va suivre la communauté, il vit une défaite physique, historique, et en même temps, ça va être une profonde conversion, un profond enseignement spirituel, et au fond, une victoire. C'est par la gestion de ces défaites que l'on sait le sens de ces victoires, spirituellement, humainement, physiquement, historiquement. Ces trois éléments-là sont importants dans notre rapport au prophète. Il faut entrer en communication avec cette histoire, avec cette historicité, avec ces évolutions, avec ces moments de réflexion que le prophète avait. Et c'est là qu'on comprend ce que Aïcha nous disait quand elle disait que son comportement ou que son caractère était le Coran. C'est-à-dire qu'il y a un lien tout à fait particulier entre l'histoire de la révélation et les fondements de son évolution humaine. Nous reviendrons, Inch'Allah, après la pause sur cette relation-là. Il y a beaucoup à dire, peut-être même trop à dire pour une émission comme celle-ci, mais nous sommes ici en train d'ouvrir le champ de la réflexion sans jamais le fermer. A tout de suite après la pause, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah, heureux de vous retrouver après cette pause. Nous avons parlé juste avant de nous arrêter sur les trois enseignements que nous pouvons tirer de la vie du prophète alayhi salam et de sa relation avec le Coran sur le temps, de ce principe que nous devons maintenir et dont nous devons être conscients tout au long de notre vie, c'est que le prophète alayhi salam est le chemin nécessaire finalement, le modèle nécessaire pour l'accomplissement de notre épanouissement. Il n'est pas, comme dans la tradition chrétienne, par exemple dans la figure de Jésus, Isa alayhi salam, la nécessité ou la voie obligée de notre salut parce qu'il aurait une dimension divine, pas du tout. Il est un homme et il est le chemin de notre succès dans son humanité. Ce qu'on trouve dans le Coran, où il est dit « Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya Et ensuite, il continue le verset en disant qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit au départ? Il dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Je suis un être humain comme vous. Et il m'a été révélé à moi qu'il n'est de Dieu que Dieu. C'est-à-dire, ma relation divine, c'est l'expression d'une révélation. Mais je suis un être humain comme vous. Donc, on suit le modèle d'un être humain qui, pendant 23 années de sa vie, va recevoir la révélation qui va convertir son cœur et orienter son cheminement dans des pérégrinations, dans des réalités historiques qui vont être d'abord des expériences extrêmement difficiles quand on y réfléchit, sur lesquelles il faut qu'on s'arrête. C'est-à-dire que ce que le prophète as-salam doit être dans nos vies, c'est cet être qui a reçu la révélation et qui, avec ces révélations, a eu les blessures de l'opposition et les joies de l'accomplissement. Le prophète, sallam, toute sa vie, c'est ceci, c'est recevoir la révélation, retourner auprès de son épouse Khadija, radiallahu anha, et trouver l'amour et la protection. Cette dimension dont nous avons parlé, hunna libasun lakum, elles sont une protection. Il trouve ceci, c'est-à-dire, en fait, l'amour du divin va être protégé, confirmé, élevé par l'amour de sa femme. Donc, il est dans l'expression de la spiritualité quelque chose qui est de dire « n'opposez pas les amours ». Certes, Ibrahim alayhi salam a eu le test des deux amours entre Dieu et son fils, mais ce test des deux amours, il termine comment? Parce que l'être de tous les amours lui permet de garder l'enfant de son amour. Il l'a testé. Il ne l'a pas tué, il ne l'a pas sacrifié, il a testé son amour pour le faire grandir. Et donc ici, le prophète, as-salam, il va avoir la protection de l'amour pour le confirmer dans sa mission. Et ça, il faut que chacun d'entre nous, dans la vie du prophète, as-salam, on n'ait pas une relation à la vie, à la sira du prophète, as-salam, la façon dont on l'enseigne aujourd'hui, malheureusement. On en enseigne les dates, on en enseigne les événements, on n'en enseigne pas le sens. La lumière, avec tous ces éléments très, très, très intimes, très, très intérieurs qui nous permettent de comprendre. À un moment donné, l'amour du divin a appelé l'amour de l'humain pour protéger le sens même de cette mission divine. Ça, c'est un premier élément. Mais au moment où il reçoit l'amour de sa femme, il se retourne vers sa communauté et ceux qui l'ont aimé, et ceux qui l'ont choyé, et ceux qui ont reconnu en lui les qualités morales les plus importantes en disant « Tu es Sadiq, tu es le véridique, tu es l'amin, tu es celui qui est un digne de confiance. Toi, eh bien, celui qui hier était ceci pour nous est devenu l'ennemi aujourd'hui. » Parce que ce sur quoi était fondé l'amour hier, c'était « Nous t'aimons quand tu ne déranges rien ». Et le prophète as-salam vient avec un message qui va déranger les ordres, déranger les pouvoirs, déranger les riches. Et nous t'aimons moins, voire nous ne t'aimons plus, voire nous te détestons. Et ça, c'est une expérience qui est importante pour nous tous. Quand on dit « La ilaha illallah » aujourd'hui, quand on regarde ce qui est en train de passer à travers le monde, dans les sociétés majoritairement musulmanes, en Afrique, en Occident, partout, l'image de l'islam est perçue comme négative. Et on sent que certains n'aiment pas ou ont de la peine à aimer les musulmans. La question n'est pas de savoir qui nous aime et comment ils nous aiment ou pas, c'est de connaître la qualité de l'amour. Il y a une qualité qui protège et puis il y a un amour conditionnel. Tant que tu fais ce que je fais, tant que tu es qui je suis, tant que tu agis comme j'agis, je t'aime. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la colonisation. C'est de l'imitation, c'est « je te donne mon cœur tant que ton cœur ne gêne pas le mien » ou « tant que tu fais ou que tu es ce que j'attends que tu sois ». Le prophète, as-salam, dès le début de son expérience, a eu l'amour qui protège d'une femme qui l'a suivi dans ce qui dérangeait et l'amour de ceux qui ne le suivront pas et qui finiront par le haïr parce qu'il n'est pas comme ils auraient été, comme ils auraient aimé qu'il soit. Ici, cette expérience-là de la foi qui teste les amours, c'est essentiel, ça. Ça, c'est la vie du prophète, as-salam. Ça, c'est le début de tout. Si on n'a pas compris ceci, el-mahabba wal-hub, et quand il est dit dans le Coran, c'est-à-dire qu'on est des frères et des sœurs dans la foi, c'est-à-dire attention, Mais ça veut dire aussi pour nous, attention de ne pas faire en sorte que nos amours, ce soient des amours colonisateurs, que ce soient des amours qui imposent à l'autre d'être ce que je suis ou d'être comme je suis. Même à l'intérieur de la communauté musulmane, ça va très très loin ceci, parce que même dans ceux qui aimaient le prophète, Abu Bakr al-Siddiq et Omar, les deux compagnons, ils n'étaient pas les mêmes. Ils avaient la même foi, mais pas le même caractère. Ils avaient la même foi, mais pas les mêmes opinions. Ils avaient la même foi, mais pas la même histoire. Et le prophète a travaillé avec leur histoire, avec leur caractère, avec leur sensibilité. Il n'a pas imposé au nom de la foi la seule façon d'être pour être aimé. Il les a aimés dans leur particularité, dans leur spécificité, dans leur différence. Non seulement ceci, mais il a fait usage de ces différences, sachant que dans la diversité des qualités, il y a la force de la communauté. Voilà des éléments qui sont le début. Mais ça, ça part de quoi? Ça part du même amour, du même cœur, mais avec l'intelligence de ces différences-là. Et ça, c'est ce qui nous dit Basharum Mithlou, comme le prophète, c'est un être humain comme nous, il vit avec ceci. Et il va trouver l'adversité de ceux qui l'aimaient hier et qui ne l'aiment plus aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui aussi comprendre et nous engager à approfondir. Et puis il y a toute cette autre dimension de ceux qui vont l'entourer, de ceux qui vont s'opposer à lui, de ceux qui vont le rejeter et avec lesquels il va avoir dans sa vie, avec les mêmes principes, et ça c'est aussi important. Les principes ne font pas la vie. La force d'un principe, c'est la capacité de celui qui a des principes de comprendre comment les gérer dans la vie. Parce qu'avoir des principes sans connaître la vie, eh ben, c'est comme avoir de la lumière sans avoir de chemin. C'est-à-dire la lumière sans le chemin, ça nous fait aller où ? Mais la lumière, c'est le principe du cœur. Le chemin, c'est l'intelligence du contexte, c'est l'intelligence des gens. Et c'est pour ça que c'est important que le prophète, il ait été aussi respecté avant, qu'il ait commencé à travailler et qu'il soit un être qui connaissait Mecca, qui connaissait le Quraysh, il les connaissait, il connaissait les hommes. Et donc, c'est à partir de ceci aussi qu'il va gérer l'affectif, il va gérer l'amour, il va gérer l'adversité, il va même gérer les rapports de pouvoir. Il sait tout ceci. Et de ce point de vue-là, il va évoluer donc dans son expérience spirituelle. Ça va être extrêmement difficile à des moments donnés. Donc ce que nous devons retirer de cette vie du prophète, c'est aussi cette façon qu'il a d'agir avec lui-même, d'agir avec autrui, d'agir avec ceux qu'il aime, d'agir avec ceux qui vont s'opposer à lui. Ça, c'est comme ceci que nous devrions commencer la vie du prophète. Commencer à comprendre toutes ces dimensions-là, toute cette lumière qui est en fait cachée dans un geste, qui est cachée dans une parole, qui est cachée dans une façon de réagir. Et la preuve qu'il l'aimait mal, en fait, c'est quand ils viennent vers lui, il dit « Mais tu veux le pouvoir? Tu veux l'argent ?» Regardez, le mauvais amour, c'est de voir en l'autre ce qui nous préoccupe, nous. Eux, ils aiment l'argent, eux, ils aiment le pouvoir. Et ils pensent que lui, celui qu'ils aimaient hier, il est la même chose qu'eux. Ne pas voir en l'autre les qualités qui le font, mais projeter sur lui les aspirations qui nous déterminent. Tu veux l'argent, tu veux le pouvoir. Et ça, c'est la réalité de ce qu'on va vivre toutes les spiritualités, c'est-à-dire la mauvaise façon d'aimer et d'apprécier. Et le prophète, salam, lui, fait le contraire. Il a un amour pour l'unique, il appelle à l'amour de l'unique et à la reconnaissance de la diversité et à l'intérieur de la communauté, sans jamais imposer un mode de pensée, sans jamais imposer une façon d'être, mais de laisser les gens, à partir du moment où ils connaissent l'essentiel, pouvoir vivre. Ça, c'est comme le prophète, as-salam, va agir avec les siens, va agir à l'intérieur de la communauté. Et puis, au gré de l'histoire de sa vie, eh bien, on s'aperçoit que les choses évoluent. Et que les choses évoluent, qu'on commence d'abord ce voyage spirituel par une façon d'être avec la nature. Alors, en fait, c'est tout à fait singulier. La spiritualité, c'est, si on devait résumer à la lumière de la vie du prophète, as-salam, quelque chose qui est déterminant, c'est se réconcilier avec le sens de la nature et se préparer à l'adversité possible des hommes. C'est tout ce qu'il va vivre au départ. Alors, ce temps-là, le rappel à la nature, réconcilie-toi avec tout ça. Il n'y a qu'un seul être, il n'y a qu'un seul créateur. Et parmi les hommes, tu vas trouver dans l'unité de l'humanité, eh ben, l'adversité. Réconciliation nécessaire et fondamentale, et adversité nécessaire aussi est importante pour ta propre évolution. C'est ce qui nous est dit dans le Coran. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Si Dieu n'avait pas mis un groupe d'êtres les uns vis-à-vis des autres, la terre aurait été corrompue. Prépare-toi à ça. Il est dans l'essence de la foi de savoir que tu vas rencontrer l'adversité. Et Waraqa ibn Nawfal, qui viendra vers le prophète sallam, amené par Khadija, radiallahu anha, il va lui confirmer ceci. Ils vont te rejeter, et ça nous en avons déjà parlé, ils vont te rejeter. Donc tu sais que tu vas vivre cette adversité-là. Le plus important, c'est comment le prophète sallam va gérer la réconciliation. Comment va-t-il gérer la fraternité? Comment va-t-il gérer l'adversité? Et ça, pour nous, c'est notre vie. Comment gérer la réconciliation avec la nature? Comment gérer la réconciliation avec les choses que l'on voit? À un moment donné, mais ça ne veut pas dire qu'on se met devant un beau paysage et qu'on dit, machallah, oui, ça peut être ceci, mais c'est dans la vie de tous les jours. Quelque chose qui arrive, et tout à coup, vous faites un pas en arrière, et vous dites, subhanallah, alhamdulillah. Et ça, c'est kalimatan, khafifatan ala lisan. Le prophète, il dit, il y a deux phrases qui sont très très légères pour la bouche et qui sont très très lourdes le jour du jugement dernier. Et qui sont très très aimés par Allah SWT. Thaqilatan fil mizan, c'est-à-dire ils vont être très très lourds. C'est quoi? C'est juste ce rappel, cette réconciliation. Et donc là, voilà le prophète sallam, comment il est avec les choses, comment il peut pleurer devant la nature, comment il peut pleurer devant la mort de quelqu'un. C'est aussi la nature, ça. La nature, c'est pas la nature des êtres inanimés ou des animaux. Non, la nature, nous sommes la nature. Voir la nature de l'être humain, et puis ensuite, la fraternité, comment il va construire au nom de cet amour de Dieu, rappeler à Mouaz ibn Jabal, nous rappeler, dites à ceux que vous les aimez, dites à votre frère, gérez cet amour-là, confirmez-le avec dans votre famille, avec vos enfants, avec vos épouses ou vos maris, avec vos parents, toujours une fondamentale religion de l'amour, partout. Et c'est ça, c'est la réconciliation avec la nature. Et cet amour-là qui nous permet de faire face à l'adversité. C'est-à-dire des êtres qui sont pour le pouvoir, des êtres qui sont pour l'argent, des êtres qui sont pour l'oppression. Et à eux, il faut leur répondre par cet amour et par cette réconciliation. Résister au mal des hommes par le bien de la création. Ça, c'est ce que le prophète salam, nous a enseigné. Ce sur quoi il faut le suivre. La vie du prophète n'est pas une série de dates. C'est trois dimensions fondamentalement à relever et à approfondir: la réconciliation avec soi et avec la nature, l'amour des êtres humains dans le bien et dans le service, et la résistance à tous les oppresseurs de la terre. Nous nous retrouvons, Inch'Allah, dans une prochaine émission sur le canal satellitaire d'Iqra, et vous pouvez également faire part de vos messages et de vos questions sur le site de l'émission, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do